Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Beaucoup de gens sont, bien sûr, fascinés par la vie du Seigneur Jésus-Christ, fascinés par sa naissance, qui est signifiée dans nos célébrations mondiales de Noël. Ils sont fascinés par ses miracles, fascinés par sa capacité à guérir les malades, à ressusciter les morts, à chasser les démons de la vie des hommes. Ils sont même fascinés par sa mort, fascinés par sa résurrection. Sans aucun doute, la vie du Seigneur Jésus-Christ est merveilleuse. Il n'y a pas de mots pour la décrire. Elle est unique, irrésistible. Pourtant, ce n'est pas par sa mort que les hommes sont sauvés. C'est par son enseignement. Sa façon de vivre ne peut s'expliquer que par le fait qu'il est Dieu. Voilà pourquoi il est né d'une vierge. Pourquoi il avait une puissance divine. Voilà pourquoi il menait une vie sans péché, qu'il est mort d'une mort de substitution. Voilà pourquoi il pouvait vaincre la mort et ressusciter le troisième jour. Il est Dieu. Comprendre non seulement la fascination et le caractère étonnant et merveilleux de sa vie, mais aussi comprendre que la seule explication de cela se trouve en ce qu'il est Dieu, signifie un pas vers la bonne direction. Mais à la fin, sa vie et son œuvre ne peuvent s'appliquer à nous que si nous comprenons son enseignement, parce qu'après tout, il s'agit de croire au message que Jésus avait apporté et qui sauve. Le monde est rempli de gens qui sont fascinés par sa vie. Ils peuvent même accepter qu'il était en fait Dieu dans une certaine forme, mais à la fin, il s'agit de croire ce qu'il avait dit. Son message est le plus critique. Être sauvé du péché, échapper au jugement et à l'enfer, la joie éternelle, la gloire céleste, ne sont pas donnés à ceux qui sont fascinés par Jésus-Christ. Ils ne sont pas octroyés à ceux qui croient qu'il est Dieu incarné. Les démons le croient aussi et tremblent. Ce n'est pas suffisant d'être sentimental vis-à-vis de Jésus. Ce n'est même pas suffisant d'éprouver du respect pour lui. Le salut est donné à ceux qui croient son message. Alors que pendant que nous avançons dans l'évangile de Luc, d'un incident fascinant à un autre, d'une démonstration de la puissance divine à une autre, nous nous retrouvons dans les chapitres importants, quand nous arrivons au passage qui parle de son enseignement. Ce sont les paroles de Jésus qui ont la vie. Nous nous trouvons donc dans l'un de ses plus grands sermons, appelé souvent le sermon sur la montagne, dans Luc chapitre 6. Ouvrons encore nos Bibles dans Luc 6, verset 20. Le premier message que Jésus a prêché était un message sur le péché. Évidemment, il n'était pas encore mort, et il n'était pas encore ressuscité des morts, et donc il ne prêchait pas la croix et la résurrection comme les apôtres le firent après ces événements. Il prêchait vraiment comme Jean-Baptiste. Il prêchait comme les prophètes de l'Ancien Testament, comme les vrais prophètes prêchaient. Il prêchait la repentance. Il prêchait que les hommes sont pécheurs désespérés, des pécheurs incurables, des pécheurs sans force, sans ressources, et que le péché les catapultait vers le jugement éternel. Et leur péché est défini par la loi de Dieu. Dieu avait donné sa loi. Les prophètes l'ont articulée. Jean-Baptiste s'y est évidemment référé. Jésus aussi. Par conséquent, les pécheurs sont évalués selon le standard parfait de la loi de Dieu. Et ils sont tous coupables. Ainsi, pour avoir violé la loi de Dieu, le pécheur se retrouve sous la juste et éternelle condamnation de Dieu. Voilà le message de Jésus. Tous les hommes sont des pécheurs, en route pour le jugement divin, qui les enverra dans l'enfer éternel, où règnent les ténèbres, le feu qui ne s'éteint jamais, un ver qui ne meurt jamais, les pleurs, les lamentations, les grincements de dents, dans une punition éternelle, consciente. Voilà ce qui constituait son message. Et le remède à cela était de reconnaître sa condition de pécheur et de désespoir, et d'implorer la miséricorde et le pardon de Dieu, étant conscient que l'on ne peut y apporter aucune contribution. Voilà ce qu'était son message. C'était le message de Jean. Repentez-vous. C'était le message des vrais prophètes des temps anciens. Maintenant, ce n'est pas un message populaire. Ce ne saurait être un message populaire dans une culture païenne. Cela ne saurait être un message populaire dans une culture agnostique ou athée. Ce n'est certainement pas un message populaire dans une culture religieuse, parce que les religieux se convainquent que leur religion les blanchit suffisamment bien. J'étais en voiture l'autre jour. Un jeune homme me conduisait à la réunion que j'avais, et je lui ai dit « Avez-vous une quelconque croyance en Dieu ?» Il a dit « Oh, je crois en Dieu. Évidemment, je crois en Dieu. » Il a ajouté ensuite « J'ai toujours cru en Dieu. » Il a dit « Je pense que je suis un homme de bien. Je suis une bonne personne. Il n'y a pas moyen que Dieu me refuse l'entrée au ciel. » Ceci est une vision typique, toujours articulée par une personne religieuse, et c'est exactement ce que les Juifs pensaient. Le judaïsme de l'époque de Jésus était littéralement bâti sur un système selon lequel c'est à travers sa moralité extérieure et superficielle, à travers ses activités religieuses cérémonielles, qu'on offrait à Dieu suffisamment ce qu'il fallait pour acheter son salut. Le message de Jésus était « Vous avez tout faux. Vous avez tout faux. » Et ils le tuèrent à cause de cela, parce que ce n'est pas un message populaire, particulièrement pour les religieux. Jésus était venu pour prêcher la repentance. Il est venu définir le péché, en des termes absolument pas incertains. Son message était tellement clair que personne ne pouvait le rater, et ce qu'il disait essentiellement dans sa prédication aux Juifs était « Vous êtes des pécheurs séparés de Dieu, étrangers à Dieu, hors du royaume, hors de l'alliance, hors de la promesse, même si tout cela vous a été enseigné par sa révélation. Ils étaient trop religieux. Ils étaient moraux, à un niveau superficiel, et par conséquent, convaincus qu'ils n'avaient pas besoin de repentance, parce qu'ils étaient agréables à Dieu, comme Jean-Baptiste, et avant lui Ésaïe, et les autres prophètes qui les avaient précédés. Jésus est venu prêcher la repentance. En fait, son message était absolument opposé à ce qui était politiquement correct et à la sagesse conventionnelle. Il les invitait essentiellement à changer complètement leur système d'évaluation personnelle et à s'évaluer d'une façon opposée, à reconnaître qu'ils n'étaient pas dans le royaume de Dieu, qu'ils ne connaissaient pas Dieu, qu'ils n'étaient pas ses enfants, qu'ils n'étaient pas en route pour le ciel. Mais d'autre part, ils se trouvaient dans une condition désespérément mauvaise, sans Dieu, sans salut, entièrement séparés de lui par le péché, et ils avaient couvert la vérité avec leur couverture de justice personnelle, mais la vérité était enfouie en dessous cependant. Ils avaient tous fait preuve, comme tout le monde, de leur incapacité à garder la loi de Dieu, et violer un de ses commandements revient à être maudit par toute la loi. Voilà ce qu'était son message. Ce n'est pas le message qu'ils attendaient de la part du Messie quand il viendrait. Ils s'attendaient à ce que le Messie, à son arrivée, embrasse la nation, confirme leur justice, leur piété, leur position dans leur royaume. Ils pensaient que le Messie leur apporterait un message du salut. « C'est vous le peuple. Je suis ici pour le royaume. Le royaume est à vous. Nous allons inaugurer le royaume et assujettir le monde entier. » C'est essentiellement là ce qu'ils attendaient. Son message fut donc choquant. Il était inacceptable. Il était carrément intolérable. Et c'est la raison pour laquelle ils le tuèrent. Et le même message reste aujourd'hui. Sauf que maintenant, nous savons comment Dieu peut pardonner le pécheur par la mort et la résurrection de Christ. Ce n'était pas encore arrivé, évidemment, quand Jésus prêchait. Il y avait encore le message de la repentance, de la confession des péchés, et il fallait implorer Dieu pour sa miséricorde et la grâce pour recevoir le salut. Un salut qui est rendu possible parce que Jésus a porté nos péchés sur la croix, et ainsi satisfait la justice de Dieu. Mais Jésus prêchait le péché, ce qui n'était pas un thème populaire, ni à l'époque, ni de nos jours. Il dévasta l'illusion en apportant la clarification avec les prophètes qui l'avaient précédé, et les apôtres après lui, et tous les prédicateurs fidèles tout au long de l'histoire de la rédemption. Il a clarifié que ce ne sont pas les religieux qui vont au ciel, ce ne sont pas les personnes superficiellement morales qui vont au ciel, ce sont ceux qui sont submergés par leur état de péché qui vont au ciel. Ce sont ceux qui sont submergés et oppressés par la réalité de leur condamnation et par leur incapacité, ceux qui crient à Dieu pour obtenir le pardon et qui reçoivent ce pardon par la miséricorde, ce sont ceux-là qui vont au ciel. Comme je l'ai dit la dernière fois, Cet enseignement de Jésus chamboulait toute pensée humaine. Il l'a reversé littéralement. Et ce passage est une illustration classique. Laissez-moi lire les versets 20 à 26, et ensuite nous allons les commenter. Alors il leva les yeux sur ses disciples. Maintenant, souvenez-vous que le mot disciple désigne ce groupe mixte de personnes qui étaient des apprenants, des mathétès. C'est le terme grec. Les apprenants, les étudiants de Jésus. Certains étaient de vrais disciples, d'autres de faux, d'autres encore dans le processus, d'une façon ou d'une autre, et il veut leur donner des critères par lesquels évaluer la légitimité et l'authenticité de leur statut de disciple. Il dit donc à ce groupe mixte de suiveurs, dans ce cas, à ne pas confondre avec les apôtres qui avaient été identifiés dans le passage précédent. Ils étaient, bien sûr, de vrais disciples, et maintenant des messagers ou des apôtres, mais il parle au reste de cette foule de centaines, sinon de milliers, qui le suivaient. Il dit, « Voici ce que vous devez savoir. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des faux prophètes. Il y a là un contraste très clair, ce qui est contraire à ce que les gens pensaient. La pauvreté, la faim, la tristesse, le rejet, une bénédiction, les richesses, la satiété, le bonheur et la célébrité, une malédiction. Et c'est précisément cela le point à retenir. Ce que Jésus dit est directement opposé à ce qu'il pense. C'est la raison pour laquelle il ne le tolère pas. Comme nous avons vu plus tôt dans la synagogue à Nazareth, au 4e chapitre, quand Jésus était allé vers les Juifs dans la synagogue et a dit « J'offre l'évangile du pardon et du salut à ceux d'entre vous qui réalisent qu'ils sont pauvres, prisonniers, aveugles, oppressés. » Ils furent tellement offusqués que Jésus les appelle pauvres, prisonniers, aveugles et oppressés, spirituellement ruinés, spirituellement emprisonnés par leurs péchés et emprisonnés dans le jugement de Dieu, spirituellement aveugles quant à la vérité divine, spirituellement oppressés par leurs iniquités. Ils étaient tellement furieux à cette description que Jésus faisait d'eux qu'ils le saisirent. Et ce sont ses propres amis, sa famille, sa propre ville. Après avoir prêché ce seul sermon, ils le menèrent sur une pente escarpée et essayèrent de le pousser. Ils détestent ce message, particulièrement les religieux, détestent ce message, ceux qui ont une justice propre. Et voici qu'il revient encore en prêchant la même chose. Ce sont les pauvres, les affamés, ceux qui pleurent, et ceux qui sont rejetés, qui sont bénis ou heureux. Et ce sont ceux qui sont riches, rassasiés, heureux et célèbres, qui sont maudits. Ce sont là les paradoxes de la bénédiction et de la malédiction que nous avons commencé à voir il y a 2 semaines. Nous allons vous rappeler les paradoxes de ceux qui sont bénis. Le premier paradoxe est la bénédiction de la pauvreté, au verset 20. « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Il ne s'agit pas de la pauvreté matérielle ou de la pauvreté économique. Il ne s'y trouve nécessairement pas de vertu. Il s'agit de la pauvreté spirituelle. » Heureux ceux qui comprennent leur ruine spirituelle. Bénis sont ceux qui savent qu'ils n'ont pas de ressources pour acheter leur salut. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire pour plaire à Dieu. Ils ne disposent aucune capacité pour faire ce qui est nécessaire pour plaire à Dieu. Bénis ceux-là qui savent qu'ils sont spirituellement destitués, ruinés. Ce sont eux qui reçoivent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu appartient aux pécheurs qui savent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Et puis, deuxièmement, vint la bénédiction de la faim. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Ce texte ne parle pas des gens qui n'ont rien à manger. Il parle de ceux qui ont faim de la justice. Bénis sont ceux qui ressentent le vide. Bénis sont ceux qui savent qu'ils ne sont pas justes. Ils le ressentent. Ils en sont privés. Ils comprennent leur ruine spirituelle, et ils crient pour être nourris de la justice de Dieu, même s'ils la déméritent. Et nous avons vu aussi la bénédiction de la tristesse, verset 21. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Ceux qui éprouvent une tristesse angoissante à cause de leur condition spirituelle, c'est le cœur brisé et contrit dont Ésaïe parle. Bénis sont ceux qui, à cause de leur ruine spirituelle, à cause de leur faim intense de la justice qu'ils savent qu'ils ne peuvent mériter et qui par conséquent s'attristent, ceux-là recevront les richesses du royaume, ils seront éternellement rassasiés et ils auront la joie éternelle. Puis le quatrième point où nous nous sommes arrêtés la dernière fois vient au verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. C'est la bénédiction du rejet qui doit être ajoutée à la bénédiction de la pauvreté, à la bénédiction de la faim, à la bénédiction de la tristesse. Et ensuite vient cette bénédiction paradoxale du rejet. Je suppose que les gens, même les apôtres, auraient supposé « Voici le Messie, nous croyons au Messie, nous sommes maintenant ses messagers, nous allons sortir prêcher ce message. Ne sera-ce pas merveilleux? Nous allons proclamer le message et les gens vont écouter l'Évangile, ils vont entendre parler du pardon des péchés et leurs cœurs vont certainement s'ouvrir et le Messie va établir son royaume et ce sera tout simplement magnifique. » Et Jésus leur dit dès le début, « Soyez prêts, vous serez haïs, vous serez ostracisés, vous serez insultés, vous serez repoussés. Voilà ce qui va se passer. Heureux êtes-vous. » Les trois premières bénédictions ont à voir avec le pécheur qui se voit pauvre, affamé, affligé. Le quatrième a à voir avec la vision qu'a le monde du pécheur. Il le déteste, il l'aliène, il l'ostracise parce qu'il a une vraie compréhension de son état de pécheur, une vraie compréhension de son besoin de la grâce de Dieu. Quatre verbes sont utilisés au verset 22. Haïr, ostraciser, insulter, rejeter. Pour résumer le dédain, l'hostilité qui viendra d'un monde pécheur. Vous serez haïs, vous serez exclus, vous serez diffamés, vous serez rejetés. Ceci est une sorte de séquence de mauvaises attitudes, dirigée vers les croyants. Ils rejetteront votre nom. Que signifie cela? Jean et Bill et Sarah et... Non, votre nom, chrétien, chrétien comme mauvais, à cause du Fils de l'homme. Jésus dit, c'est à cause de moi qu'ils vous haïront, parce que c'est mon message, c'est mon évangile, c'est mon salut, c'est mon appel à la repentance. Je ne prêche pas mon appel aux pécheurs, je ne fais que répercuter l'appel de Christ, compris? Je ne fais que répercuter la parole de Dieu. Ici donc Jésus vient d'appeler ses disciples, ceux qui deviendront apôtres. Il a sélectionné, identifié les 12 d'un groupe plus nombreux. Immédiatement après cela, bien sûr, il descend de la montagne, il se lance dans ce sermon appelé le sermon sur la montagne, et d'entrée de jeu il dit « Je veux que vous soyez prêts, les amis, parce que si vous vous identifiez à moi, vous ferez face à la persécution, à l'hostilité. Ils vont détester le nom que vous portez, parce qu'ils me détestent. » Ouvrez vos Bibles dans Matthieu, chapitre 10. Cela vaut le coup de regarder profondément ce sujet, selon le récit de Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 10, nous avons l'instant où Jésus donne le pouvoir à ses apôtres, et nous allons le voir dans Luc, chapitre 9. C'est un passage parallèle à Luc 9. Mais je veux que vous remarquiez ce que Jésus leur dit quand il leur donne l'instruction. Descendez au verset 16. Et vous pouvez? Maintenant, il leur a été donné, évidemment, le titre d'apôtre. Ils ont reçu la capacité de guérir les malades. Ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons. Et ils ont reçu le pouvoir sur le monde physique et sur le monde spirituel. Ils peuvent avoir le sentiment que tout va bien se mettre en place, que ce sera grandiose. Alors il leur dit au verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous irez là-dehors et on essaiera de vous dévorer. » Le verset 17 va plus loin. « Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs. » Et on vous fera fouetter dans leur synagogue. » Ceci était arrivé à l'apôtre Paul. 5 fois, il reçut 39 coups de la part des Juifs. Ils le fouettèrent, littéralement, dans la synagogue. Vous parlez de la discipline d'Église. Ils lui donnèrent 39 coups, déchirant sa chair, à cause de ce qu'il voyait, comme une hérésie, parce qu'il était un chrétien. Et Jésus dit aux 12, « On vous traînera dans les tribunaux pour ceci, et on vous fouettera aussi dans les synagogues. Verset 18. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux nations païennes. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au même moment. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Et cela peut encore être vrai. Nous ne recevons plus la révélation directe. Mais quand vous vous trouvez dans cette situation, si cela se produit de nos jours, dites juste ce que l'Esprit a dit dans les Écritures. Dites simplement la vérité de la parole de Dieu. Verset 21. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Littéralement, il y aura des tueries dans les familles à cause de l'identification à Jésus-Christ. Verset 22. Tout le monde vous haïra à cause de moi, et voici encore la preuve que l'identification à Jésus est tellement répulsive, particulièrement pour les pécheurs religieux, et que vous allez en souffrir. Il dit quelque chose au verset 24 que je trouve très important. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. Ceci signifie que si je suis votre maître et que l'on me maltraite, si je suis votre enseignant et que l'on me maltraite, ne vous attendez pas à recevoir un traitement différent. Voilà comment ce sera. Ils vous persécuteront comme ils m'ont persécuté. Ceci se passe encore de nos jours. Les chrétiens sont persécutés aujourd'hui. Je pense que plusieurs meurent, plus qu'à aucune autre période de l'histoire, selon les statistiques dont je dispose, surtout par la main des musulmans. Je veux que vous alliez dans Jean, chapitre 9, parce que je pense que nous devons comprendre ce que le Seigneur dit à ses apôtres. Il avait peut-être pensé, vous savez, lorsqu'ils ont été identifiés comme les 12 apôtres. Jésus les choisit. Ils auraient dû se féliciter entre eux pour ce merveilleux honneur. Et ensuite, ils entendent directement que cela va leur coûter, parce que le message va à l'encontre des cœurs méchants des hommes. Dans Jean 9, Jésus guérit un aveugle, et les gens vont voir les parents de l'aveugle. Vous vous souvenez qu'il était né aveugle. Il souffrait d'une cécité congénitale, ou d'une cécité survenue à sa naissance. Jésus l'a guéri, et il a pu voir. Au verset 22, les gens sont allés voir ses parents. Verset 21, vous savez, pouvez-vous nous dire ce qui se passe ici? Comment se fait-il qu'ils voient? Ils commencèrent à leur poser des questions au verset 19. Il y a ce petit dialogue. Ses parents dirent, « Nous sommes certains que c'est bien notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais si vous voulez savoir, interrogez-le. Demandez-lui ce qui s'est passé pour qu'il puisse voir. » Le verset 22 dit, les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie, l'excommunication. Et cela se faisait dans plusieurs cas, avec des coups de fouet. Alors, pour cette raison, ses parents dirent au verset 23, « Il est assez grand, interrogez-le donc lui-même. » Allez dans Jean chapitre 15. Et, encore une fois, Jésus fait allusion à ce genre d'hostilité. Dans Jean 15-18, Jésus dit, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ne soyez pas surpris. » Verset 19. « Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. » Quelle profonde vérité! « Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Il va dans le sens qu'il y a toutes sortes de religions tolérées dans le monde, parce qu'elles font toutes partie du même système. Elles peuvent ne pas s'accorder sur tout, mais elles s'accordent sur une chose. Elles sont contre le christianisme. Souvenez-vous de ceci. » Il le répète au verset 20. « Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Verset 23. Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon père. Ils vous haïssent, ils me haïssent, ils haïssent mon père, c'est comme ça. Au verset 16, il dit, ceci se passe dans la chambre haute lors du dernier souper, comme nous le désignons, quand il passait sa dernière nuit avec ses disciples, il les prépare à ce qui va arriver. Ceci se produit bien après l'incident de Luxis, mais il leur donne le même message. Il dit au verset 1, au chapitre 16, je vous ai dit tout cela, pour que vous soyez préservés de toute chute, car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là, parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père, ni moi. Alors, il faut s'y attendre. Voici exactement comme cela sera. Vers la fin du premier siècle, c'était tellement ancré dans le judaïsme. Les premiers chrétiens avaient beaucoup souffert, comme vous le savez. Je veux dire, regardez l'apôtre Paul. Il allait partout, vociférant des menaces, exécutant des tueries des chrétiens. Il reproduisait exactement ces choses. Ensuite, vous avez l'occasion au chapitre 7 de Actes, où Étienne est lapidé par ces juifs de Jérusalem, qui le tuèrent, parce qu'il était un chrétien hérétique. Voici comment ça marchait. À la fin du premier siècle, ils avaient développé un moyen par lequel ils pensaient pouvoir éradiquer tout juif chrétien des synagogues. Il y a une série de prières appelées « Shemoneh Ezrei » qui étaient développées parmi les juifs. Ces prières sont au nombre de 18. Permettez que je vous lise la 12e d'entre elles. En passant, ces prières étaient faites à haute voix, individuellement dans la synagogue. Voici la 12e prière. C'est une prière pour les renégats. Qu'il n'y ait aucun espoir et que l'arrogance soit bientôt déracinée de nos jours. Que périssent les chrétiens et les hérétiques en un instant, et qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient pas inscrits avec le juste. Béni sois-tu, ô Seigneur, toi qui humilies l'arrogant. Voilà la prière. Alors voici une prière juive à faire, qui condamne les chrétiens. On leur faisait faire cette prière, personnellement, dans la synagogue, afin d'observer pour voir qui trébucherait sur cette prière. Celui qui trébuchait sur cette prière pouvait donc être désigné comme chrétien, ou supporteur de chrétiens, et donc était expulsé de la synagogue. Cette prière devint donc un test, une sorte de malédiction visant à exposer les chrétiens, qui trébucheraient en essayant de faire cette prière, si leur identité n'était pas déjà connue. Alors on les expulsait de la synagogue. Alors ce que Jésus disait allait arriver, et c'est arrivé. La majorité des apôtres même, comme vous le savez sur notre série sur les apôtres, étaient tués pour avoir proclamé la vérité. Et ceux qui prononçaient le nom de Christ étaient expulsés des synagogues, fouettés et tués aussi. Ce type de persécution se poursuit encore et encore et encore et encore, et pour la plupart, par la main des religieux, qui n'aiment pas le diagnostic suivant lequel un homme ou une femme sans Christ est condamné, et un pécheur perdu, peu importe combien religieux il peut être. C'est le diagnostic répulsif. Maintenant, retournez dans Luc 6. Alors il dit, « Vous serez bénis si cela arrive. Vous devez faire partie de ceux qui sont bénis. Vous devez vous considérer bénis, parce que c'est cela la réalité. En fait, lorsque tout ceci vous arrive, à cause de votre nom, chrétien, et à cause du nom du Fils de l'homme, un titre dont nous avons déjà discuté dans cet évangile, voici ce que doit être votre réponse. » Verset 23. « Réjouissez-vous en ce jour. Maintenant, que je vous retienne là, ce jour-là. Cela isole le jour de la persécution. Il n'en sera pas toujours ainsi. Ce ne sera pas une persécution non-stop pour tout le monde. Réjouissez-vous en ce jour-là. Quel jour? Ce jour-là. Retournons verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Lorsque est un mot très important. Lorsque indique que ce n'est pas constant, c'est occasionnel. Lorsque cela arrive, et puis plus tard en ce jour-là, où cela se produit, alors, nous ne voulons pas faire ceci de manière à ce que vous pensiez que votre vie ne sera rien d'autre qu'un acte de persécution, et vous finissez par développer un complexe de martyr. Regardez l'Église primitive, selon Actes 2, 47. Elle avait la faveur de tout le monde. Plus tard, dans Actes, chapitre 5, verset 13, il est dit que les populations de Jérusalem avaient une grande estime pour les chrétiens, et 1 Timothée, chapitre 2, dit que nous devons nous conduire d'une manière pieuse, menant une vie tranquille, paisible, calme, afin de susciter le respect. Pierre dit que vous devez mener votre vie de manière à ce que les méchants n'aient contre vous aucun motif d'accusation. Tite, chapitre 3, dit que vous devez mener une vie calme, d'une façon gracieuse, afin d'avoir le témoignage de la puissance de transformation de Christ dans votre vie, pour toucher ceux qui sont sans lui. Il y a cette réalité ferme que la vie d'un chrétien peut être un témoignage drastique de la puissance de Dieu. Et pour ceux qui sont ouverts à l'Évangile, c'est une partie importante, critique de l'évangélisation, n'est-ce pas? Mais il viendra des moments où vous serez haïs et ostracisés, diffamés et rejetés. Il viendra ce jour-là, où de telles choses se produiront, encore une fois, en mettant un accent sur l'occurrence occasionnelle. Cela viendra. Cela a généralement à voir avec votre fidélité à dire, sans compromis et avec hardiesse, ce qui doit être dit dans un environnement religieux ou pour confronter les pécheurs. Si vous ne dites jamais rien, vous pouvez échapper. Si vous vous compromettez, vous pouvez échapper. Vous gardez la bouche fermée, vous pouvez y échapper. Vous pouvez y échapper, vous dites la vérité. Dans certains cadres, difficile d'y échapper. Mais il dit, lorsque cela arrive, réjouissez-vous en ce jour-là. En fait, réjouissez-vous au point de bondir de joie, de commencer à danser, d'exubérer, d'être complètement emporté. Maintenant, nous le faisons, mais ce n'est pas souvent connecté à la persécution. En tant que chrétiens, nous ne le comprenons pas vraiment. Si vous êtes persécuté à cause du nom de Jésus-Christ, si vous êtes persécuté à cause du nom du Fils de l'homme, si vous êtes persécuté parce que vous êtes chrétien, si vous êtes persécuté parce que vous faites le vrai diagnostic du cœur d'un pécheur, et vous confrontez cette pauvreté spirituelle, cette ruine spirituelle, vous essayez de renverser leur sens d'estime personnelle, de respect de soi et de justice personnelle. Si vous vous attaquez à cela comme vous le devez pour faire passer l'Évangile, si vous le faites fidèlement et vous recevez l'hostilité même au point d'être jeté de la synagogue, d'être fouetté, d'être menacé de mort, mettez vos chaussures de danse, soyez exubérants. Pourquoi ? Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande. Où ? Dans le ciel. Vous devez avoir une autre perspective du monde pour faire ceci. Si tout ce que vous voulez, c'est le confort ici, vous allez passer à côté. Si vous comprenez que votre récompense éternelle est proportionnelle à votre disposition à confronter et à souffrir pour l'Évangile, alors vous réalisez que la petite souffrance ici en vaut la peine, comme Paul le dit. Elle ne peut être comparée à la gloire qui nous est réservée. C'est la perspective éternelle. Que m'importe de subir l'hostilité dans cette vie pour la vérité de l'Évangile ? Que m'importe ce que me font les gens dans cette vie pour avoir prêché la vérité, quand je sais qu'il y a une récompense pour moi, que je recevrai dans la gloire, et que je pourrai me jeter aux pieds de mon Christ pour la petite souffrance ici, et j'ai l'assurance que cette récompense éternelle est quelque chose, l'ayant déposée aux pieds de Christ, dont vous profiterez de la plénitude à jamais. Voilà pourquoi dans Acte 5, quand les apôtres prêchaient, il ne leur fallut pas beaucoup de temps pour voir ceci s'accomplir, vous savez. Ils avaient commencé à prêcher le jour de la Pentecôte, et à peine avaient-ils commencé à prêcher que la persécution commença, n'est-ce pas ? Immédiatement, on leur dit de ne plus prêcher. Acte chapitre 5, verset 40. Ils arrêtèrent les apôtres, et elles, les autorités juives, les firent battre. Ils leur donnèrent ces 39 coups sur le dos, et ils leur intimèrent d'arrêter de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Que dit le prochain verset ? Alors ils s'en allèrent déprimés ? Non. Les apôtres quittèrent la salle du conseil tout joyeux. Pourquoi ? De ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Quel privilège ! Vous avez reçu un grand privilège. Nous qui ne sommes pas dignes de souffrir pour le nom de Christ, nous ne sommes même pas dignes d'être mentionnés par le même souffle. Nous avons ce privilège de souffrir pour lui. Paul dit dans Colossiens 1, 24, cette grande affirmation. « Je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ. » Quelle affirmation ! En d'autres termes, toute persécution que je subis est destinée à Christ. Il n'est pas ici, alors il me saisit à sa place. Et il dit aux Galates, « Je me réjouis de ce que je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Quel privilège pour un pécheur indigne, misérable, d'être littéralement puni à la place de Christ, qui avait été puni à la croix à sa place. Quelle énorme réalité ! Je ne suis même pas digne de recevoir les coups destinés à Christ. Mais quel honneur ! Quel privilège ! Et il dit qu'il y a un autre privilège. Regardez en avant et voyez votre récompense éternelle. Puis regardez en arrière et voyez avec qui vous vous associez. Car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard de qui ? Des prophètes ! Vous êtes en très bonne compagnie, vous pouvez souffrir à cause de votre honnête présentation de la réalité du péché et du jugement, et vous avez besoin de la miséricorde, de la grâce, du pardon et du salut. Vous pouvez vivre cette hostilité avec un espoir pour l'avenir, c'est bon. Les souffrances de ce monde ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Je peux adopter la vision en avant, je peux aussi me retourner et adopter la vision de derrière et dire « Ceci me met en bonne compagnie. Ceci est une histoire familière de l'Ancien Testament. C'est ainsi que leur père agissait à l'égard des prophètes. Vous étudiez l'Ancien Testament et vous étudiez l'histoire d'Israël. Voyez ce qu'il faisait aux vrais prophètes. Allez dans Matthieu 22. Ce sera un aperçu de cela, sans faire tout l'Ancien Testament. Il y a une parabole à la fin de Matthieu 21 qui décrit le traitement qu'ils infligeaient aux prophètes dans une parabole. Vous vous souvenez que le Seigneur parlait d'un homme qui possédait une vigne, et il avait recruté des gens pour y travailler, et il est revenu pour vérifier. Il a envoyé des serviteurs, ils ont été tués, ils ont été battus. Finalement, il envoya son fils, et ils tuèrent son fils. C'est une image d'Israël, la vigne de Dieu. Il envoya des prophètes, ils tuèrent les prophètes. Il envoya son fils, ils tuèrent son fils. Puis au chapitre 22. Bien, passons au chapitre 23, je veux en finir. Chapitre 23, verset 31. « Vous témoignez ainsi contre vous-même, dit-il. » Ce chapitre 23 est une explosion contre les dirigeants religieux d'Israël. Il commence au verset 1, qui s'adresse aux scribes et aux pharisiens. Au verset 31, « Vous témoignez ainsi contre vous-même, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Vous allez me tuer. Vous allez tuer ceux qui mentionnent mon nom. Vous allez mettre à mort mes apôtres. Vous êtes vraiment les fils de vos pères qui tuaient les prophètes. C'est un fort élément de condamnation. Il ne pouvait pas être plus fort. Et vous voyez l'émotion et la souffrance. Pathos en grec. Au verset 37, où Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, comment décrit-il Jérusalem ? Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Voici Jérusalem. Alors s'ils vous persécutent, vous êtes en bonne compagnie. C'était Israël, pas n'importe quel groupe religieux, mais c'est Israël qui tuait les vrais prophètes de Dieu. Jacques rédige son épître pour encourager les croyants qui souffraient. Et au chapitre 5, verset 10, il dit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Vous voulez une bonne illustration de ceux qui ont enduré la persécution ? Regardez les prophètes. Au fil de l'histoire, les amis, ceux qui prêchent la vérité sont dénigrés et persécutés. Pourquoi ? Parce que le message qui dit que l'homme est un pécheur misérable, en route pour le jugement éternel, et qui n'a en lui rien de bon pour le changer, mais doit s'en remettre à la grâce et à la miséricorde de Dieu, est répulsif pour le pécheur. Il veut croire en son estime personnelle, à sa justice propre. Alors, il tuait les prophètes à l'époque. Il tuait les prophètes à l'époque de Jésus. Il tue toujours ceux qui mentionnent le nom de Christ aujourd'hui, encore. Et la persécution est un style de vie. Il y a des endroits où on ne peut pas nous tuer, parce que la loi ne le permet pas. Là où la loi le permet, il y a des tueries. Alors, nous entendons parler de ceux qui sont bénis. Les pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui sont affligés et rejetés sont bénis, parce qu'ils s'identifient aux vrais prophètes du passé, et parce que leur récompense au ciel est grande. Maintenant voyons ceux qui sont maudits, et nous allons finir. Et ceci va se faire en établissant le contraste, sans trop de commentaires. Ainsi s'établit le contraste, les paradoxes des maudits versets 24 à 26. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Quel contraste ! Tout d'abord, la malédiction des riches. Le verset 24. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Il ne s'agit pas de richesse matérielle. Il ne parle pas d'économie ici. Abraham était riche, et Job était riche. Et Deutéronome dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir d'acquérir les richesses. Nous ne parlons pas du monde physique, d'économie, nous parlons du règne spirituel. Malheur à vous qui pensez que vous avez assez de richesses spirituelles pour acheter votre salut. Malheur à vous qui pensez que vous avez, par vos propres actes de justice, tant morale que religieuse, mérité votre accès au royaume de Dieu. Malheur à vous, pharisiens, comme Luc 18, qui allez au temple et vous dites « Je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes ». Comme ce pauvre pécheur-là. Je jeûne Je paie la dîme et je donne l'aumône. N'es-tu pas content de mes réalisations? Malheur à vous, les religieux. Plus tard, bien entendu, il les appelle hypocrites. Malheur à vous qui ne savez pas que vous êtes pauvres, prisonniers, aveugles, oppressés. Malheur à vous qui ne savez pas que vous êtes les pauvres, et vous êtes les affamés, les affligés, et que par conséquent vous êtes rejetés. Pourquoi un malheur leur est-il prononcé? Pourquoi? Qu'est-ce que la malédiction? Vous avez votre consolation. Waouh! La voici! Profitez-en! La voici! La voici! Tout votre paiement sur la terre! Eh bien, qu'en est-il d'après? Oh, après ceci, vous n'aurez plus de consolation. Vous irez en enfer. Jésus l'a dit répétitivement. Et l'enfer est un lieu de ténèbres. Il n'y a jamais de lumière. C'est un lieu où brûle un feu qui ne s'éteint jamais, et où il y a un ver qui ne meurt jamais. Un inconfort horrible, un inconfort éternel caractérise ce lieu. Puis, il y a la malédiction de la satiété. Au verset 25. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui pensez que vous avez tout. Vous êtes un but de vous-même. Vous êtes un but de votre propre justice. Vous êtes un but de votre hypocrisie pompeuse. Vous ne ressentez le besoin de rien. Vous ne ressentez pas la faim que ressent un pécheur, parce que vous ne pensez pas être un pécheur. Malheur à vous, parce que vous aurez faim pour toujours. Au moins 4 fois dans l'évangile de Matthieu. Jésus dit que vous grincerez des dents, à la quête de quelque chose pour satisfaire le rongement de votre cœur, mais en vain. Une faim sans fin dans le fossé de votre âme tourmentée. Puis, il y a la malédiction du bonheur. Au verset 25. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Et qu'est-ce que l'enfer? Jésus a dit et répété, au moins 4 fois dans l'évangile de Matthieu, que c'est un lieu où il y a des pleurs et des larmes. Malheur à vous qui êtes content de vos réalisations religieuses. Malheur à vous qui vous suffisez à cause de votre religion. Malheur à vous qui êtes satisfait de votre moralité. Malheur à vous. Malheur, malheur à vous. Pourquoi? Parce que vous serez à jamais dans les larmes. L'enfer est un lieu de chagrin infini, éternel, de chagrin sans précédent. Les larmes n'arrêtent jamais de couler. Et quatrièmement, la malédiction de la popularité. Au verset 26. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur père agissait à l'égard des faux prophètes. Les Écritures sont très claires sur ce qui arrive aux faux prophètes, et ceux qui les rejoignent et les endossent. Oh, vous voulez que tout le monde dise du bien de vous? Vous avez conçu une religion qui amène les gens à dire du bien de vous. C'est un signe de malédiction. Si tout le monde aime votre approche de la religion, vous avez de sérieux problèmes. Quand vous réussissez à inventer une religion qui n'offense personne, c'est une indication claire que vous n'êtes pas dans le royaume. Quand tout le monde vous aime, et tout le monde aime votre approche de la religion, parce qu'elle n'offense pas, vous devez être dans le groupe des faux prophètes, parce que c'est ce que font les faux prophètes. Ils recherchent la popularité. Plus leur popularité est étendue, mieux ça vaut, parce que c'est l'argent qu'ils recherchent. Un gain sordide, la cupidité. Illustration. Allez dans Jérémie. Et nous allons conclure à ce niveau. Jérémie 6. Pendant les jours de Jérémie en Israël, le prophète avertissait tout le monde au sujet du jugement. Et avec cela, pauvre Jérémie, personne n'écoutait Jérémie. Il était une sorte de vraie voix à la fin des jours de Juda. Et il y avait tellement de faux prophètes partout qui disaient des mensonges. Et ces mensonges étaient répandus, parce que des faux prophètes disaient des choses que les gens voulaient entendre. Comme c'est toujours le cas. C'est ainsi qu'ils s'enrichissent. Et Jérémie devenait de plus en plus pauvre, parce qu'il disait ce que personne ne voulait entendre, la vérité sur le péché et le jugement. Mais dans Jérémie 6:13, « Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Mais vous avez des prophètes et des sacrificateurs, tous poussés par la cupidité, le profit, les motifs. Et voilà pourquoi ils racontent leurs mensonges, à tel point que le pays en est littéralement rempli. » Le chapitre 8, verset 10. « Tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. » Il soulève encore la même question. Les faux prophètes y sont engagés pour de l'argent. Ils disent des mensonges, reçoivent l'argent de ceux qui aiment les mensonges. Au chapitre 14, verset 14. « Et l'Éternel me dit, « C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. » Et c'est ce qui outre le Seigneur, quand ils le font en son nom, comme si ce sont ses paroles. Je ne les ai point envoyées, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur, qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai pas envoyées, et ils ne parlent pas de ma part, et je ne leur ai pas donné de message. Chapitre 23, 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Malheur à ces pasteurs. L'Ancien Testament est très clair sur ce qui arrive aux faux prophètes. Le jugement s'abattra sur eux. Au verset 9, sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Pourquoi tremble-t-il littéralement sous la menace du jugement qui va s'abattre sur les faux prophètes et de tous ceux qui les suivent? C'est tellement dévastateur que cela fait trébucher Jérémie sous le poids de la condamnation à venir. Verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Le Seigneur les détruira. Il y a encore plus à voir dans le livre de Jérémie. Mais je veux que vous retourniez au chapitre 5. Voici la clé. Chapitre 5, versets 30 et 31. Des choses horribles, abominables, se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Voici la partie clé. Vous pouvez la souligner. Et mon peuple fait quoi? Prend plaisir à cela? Il prend plaisir à cela. Il y prend plaisir. C'est ainsi que faisait leur père, dit Jésus. Ils vous traiteront de cette manière. Ils haïront la vérité et ils prendront plaisir aux mensonges et ils aimeront les faux prophètes. De la même manière que vous qui êtes disposés à être persécutés à cause de mon nom. Vous aimez les prophètes des temps anciens. Ceux qui vous haïssent sont comme les gens des temps anciens qui aimaient les faux prophètes. Les faux prophètes étaient populaires. Ils sont populaires et seront populaires. Et ceux qui les suivent seront condamnés avec eux. Vous devez prêcher la vérité, dit-il à ses disciples. Vous devez la croire. Si vous la croyez, il y a un prix à payer. Vous serez persécutés. Et je sais que ce jour-là, il y en avait qui se sont appropriés le message. Ils ont embrassé Christ comme étant leur Messie. Ils se sont vus comme des pécheurs. Ils se sont repentis et ont imploré la miséricorde. Et sans doute, il y en avait qui ont commencé à changer de direction. Êtes-vous spirituellement pauvre, affamé, affligé et rejeté, implorant Dieu pour la miséricorde par le sacrifice de Christ, à qui Dieu a donné les richesses éternelles, la satisfaction éternelle, la joie éternelle, l'acceptation et la récompense éternelle? Ou alors, êtes-vous de ceux qui sont spirituellement rassasiés, riches, heureux, populaires, à qui Dieu promet la pauvreté éternelle, le vide éternel, l'affliction éternelle et le rejet éternel? Il n'existe que deux catégories. Après mon passage à la télévision l'autre jour, j'ai reçu plusieurs emails et plusieurs lettres. Je me suis assis dans mon bureau et j'ai ouvert une des lettres quand je suis arrivé ce matin-là, qui m'a choqué. C'était une lettre remplie de paroles tellement grossières que je ne peux pas les répéter. J'avais même de la peine à les lire. Toutes paroles grossières, ordurières, injurieuses, imaginables et inimaginables. Et la lettre me dénigrait. Me condamner en des termes aussi grandioses que cette personne pouvait écrire, une ligne après l'autre me condamnant, parce qu'il m'a vu à la télévision, et je proclamais l'évangile du péché, de la mort et du salut uniquement en Christ. Et il était très furieux. Il a dit à la fin de la lettre, « Je ne me souviens pas des termes exacts. Je ne vais pas vous tuer, mais quelque chose comme « Je vais juste espérer que vous serez enlevés, que vous disparaîtrez pour que nous puissions avoir la paix du monde, ou quelque chose de ce genre. » Mais l'intention était, s'il le pouvait, de me tuer. Ce qui était très choquant au sujet de cette lettre, c'est qu'au milieu, il dit, « En 1976, je l'ai baptisé dans cette église. » Bien évidemment, il n'était pas un chrétien. Une ligne dont je me souviens. Je tombe, et je prends de plus en plus plaisir. Quel est le problème? Y a-t-il quelque chose d'apologétique qui doive se produire pour le convaincre de la vérité? Non. C'est une personne qui aime le péché et déteste le messager qu'il expose. Mais c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. Et c'est là que vous devez parvenir à une évaluation honnête de votre péché. Ensuite, vous courez à Christ. Alors vous courez à Christ. Vous n'allez pas poser toutes sortes de questions sur ceci et cela. Et qui est-il? Et qu'en est-il de ceci ou de cela? Vous allez implorer Dieu pour sa miséricorde et sa rédemption. Alors le message dans l'Évangile est toujours le message du péché. C'est la mauvaise nouvelle qui crée la demande de la bonne nouvelle, et c'est ainsi que Jésus prêchait. Il y a encore plus à dire dans ce message, mais voilà comment il a commencé. Père, s'il te plaît, imprime cette vérité dans chacun de nos cœurs et opère ta puissante œuvre salvatrice dans chaque vie. Renverse ces barrières, afin que les pécheurs voient leur véritable condition, et t'implore, toi le Dieu d'amour et de grâce et de miséricorde qui désire sauver les pécheurs. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.